Alors j'aimerais commencer ce matin par une citation de William Booth. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez qui est William Booth?
Non.
Le fondateur de l'armée du salut. Donc voilà la déclaration qu'il a faite à la fin du 19e siècle. Le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. En fait, on pourrait presque donner des messages sur chaque section. Mais ce matin, je vais plutôt parler de chrétiens sans Christ. Il a dit ça à la fin du 19e siècle. On est au début du 21e siècle. Et moi, je trouve que la déclaration qu'il a faite à cette époque a vraiment un caractère prophétique. Car c'est vraiment un danger qui guette l'Église aujourd'hui. Et puis, j'aimerais aussi compléter sur un peu cette déclaration par un texte dans Luc, chapitre 11, verset 34, où Jésus dit « Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. » Donc là, il parle de garder ses yeux en bon état, pour garder son corps en bon état. Et en fait, c'est un petit peu cette idée que garder sa qualité de disciple. Comment garder sa qualité de disciple? Parce que Jésus ne nous a pas appelés à devenir des chrétiens, il nous a appelés à devenir des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui suivent le Christ en vue de lui ressembler. Et moi j'ai un fils qui travaille dans une usine métallurgique, et en fait son travail c'est de contrôler que les pièces qui sortent des chaînes de montage soient conformes aux normes. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous a laissé un livre pour que nous sachions que nos vies soient conformes à ce qu'il nous demande en tant que disciples. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai eu vraiment une conviction très très forte en moi qu'il fallait préparer le peuple de Dieu à la persécution. À la persécution. Dans un texte 2 Timothée 3, verset 12, il est dit « En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. » Il dit pas peut-être que, il dit connaîtront la persécution. Et donc c'est très important aujourd'hui que chacun d'entre nous, on se décide aujourd'hui de vivre dans l'attachement à Dieu. Pas dans l'attachement à une religion, pas l'attachement à une doctrine, mais l'attachement à Dieu lui-même. Parce que c'est ce qui va nous permettre justement de tenir bon dans les temps de persécution. Et j'aimerais prendre une image, ah ben c'est vraiment rapide, dans 1 Roi, chapitre 10, verset 16. Alors c'est des boucliers en fait. Hein. 1 Roi 10, verset 16. 1 Roi, chapitre 10, verset 16. Le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers d'or battu, pour lesquels on employa 6 kilos d'or par pièce, et 300 petits boucliers d'or battu, pour chacun desquels on employa 1 kilo et demi d'or. Le roi les fit placer dans le palais de la forêt du Liban. Donc je pense que chacun d'entre nous, on serait assez content de pouvoir afficher 300 boucliers d'or dans notre salon. Hein. Ça représente une énorme richesse. Un peu plus tard, au chapitre 14, malheureusement, il va perdre ses boucliers. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout, notamment tous les boucliers d'or que Salomon avait fait faire. Imaginez la perte. Là, vous rentrez chez vous et les 300 boucliers d'or qui étaient accrochés au mur de votre salon sont volés. Le roi Roboam,
hein? Nous sommes assurés.
D'accord. Le roi Roboam fit faire des boucliers de bronze. Alors, j'ai pas trouvé du bronze sur Internet, j'ai mis de l'argent. Le roi Roboam fit faire des boucliers de bronze pour les remplacer et les confia au chef des gardes chargé de surveiller l'entrée du palais royal. Vous savez, le bronze ressemble beaucoup à de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Ça n'a pas du tout la même valeur. Si vous essayez de vendre 300 boucliers d'or ou 300 boucliers de bronze, vous verrez la différence que vous allez recevoir dans votre poche. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 2 Timothée 3, verset 5, dans le même chapitre où il parle de la persécution, il parle du danger que William Booth a évoqué. Il dit, certes, il parle des gens en général, mais il parle aussi des chrétiens, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ça veut dire que les gens continueront de pratiquer, d'aller à l'église, aux différentes réunions, mais en fait, leur intimité avec Dieu, leur intimité avec le Seigneur lui-même ne sera pas là. C'est pour ça que Jésus dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand je dis ça, je me dis, « Seigneur, j'espère que tu vas trouver la foi chez moi quand tu reviens. » Et il y a des symptômes si on est tombé dans la religiosité, parce que c'est ça le danger, c'est de tomber dans la religiosité, c'est-à-dire dans des pratiques religieuses, mais on n'a plus le contact avec le Seigneur lui-même, il n'y a plus de relation d'intimité avec Jésus. Et dans Apocalypse 2, versets 1 à 4, il décrit un de ces symptômes de religiosité qui nous guette tous. Il ne faut pas penser que ça guette seulement les grandes religions. Ça nous guette, nous aussi, les chrétiens évangéliques, même si on a fait une démarche de conversion personnelle. Il dit... C'est un des anges qui s'adresse à une des églises. Il dit, « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. » Donc, ce n'était pas n'importe quelle église quand même. « Mais j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Ça, c'est un symptôme de la religiosité, c'est quand nous n'avons plus d'enthousiasme pour le Seigneur Jésus, quand son nom ne fait plus vibrer notre cœur. Là, il y a quelque chose qui va pas. Un autre symptôme, c'est quand notre témoignage devient sans saveur et sans lumière. Dans Matthieu 5, versets 13 à 15, il est dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Et là, il s'adresse aux chrétiens. « Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? » Ce sel ne sert plus à rien. Un troisième symptôme, c'est quand le cœur n'y est plus. C'est-à-dire, on prononce des paroles, mais le cœur n'y est plus. Dans Marc 7, verset 6, il est dit, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. » En un mot, on peut perdre sa qualité de disciple. Je rappelle qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître en vue de lui ressembler. Et donc, je crois que c'est absolument important de se rappeler de qui nous sommes les disciples et pourquoi nous sommes disciples. Et c'est un petit peu le thème de mon message ce matin. Disciples de qui et disciples pourquoi. Et là, j'ai volontairement mis une image qui brille. Et c'est le nom de Jésus qui brille. Vous savez, il y a une phrase qu'on utilise parfois et qui, pour moi, a beaucoup de sens. Qui m'aime me suive. Moi, je me rappelle, je faisais partie d'une bande de jeunes et chaque fois que je disais « Qui m'aime me suive ?», il n'y avait personne qui me suivait. Et moi, je dirais « Qui aime Jésus le suivre ?». Dans Apocalypse 2, verset 5, il est dit « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Où est-ce que nous sommes tombés pour que notre vie ne soit plus une vie relationnelle avec Jésus, une vie enthousiaste à l'égard de son nom, mais une vie plutôt simplement de religieuse. Quelqu'un a dit que toute la vie chrétienne est une vie de reconnaissance, une réponse à l'égard de ce que Jésus est et a fait pour nous sur la croix. C'est ça la vie chrétienne. C'est répondre à ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. Dans 1 Jean 4, verset 10, il est dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je crois que là où nous tombons, c'est quand le Christ lui-même, sa personne, le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Christ assis à la droite de Dieu, le Christ qui revient, n'est plus au centre de nos vies. C'est là que nous tombons. C'est parce qu'on perd de vue l'objet de notre foi. Je crois que là où nous tombons aussi, c'est quand la parole écrite, que Dieu nous a laissée, que nous avons dans nos mains, passe au second plan. C'est-à-dire qu'elle est négligée. Alors que c'est quand même l'outil indispensable, cette parole, pour justement connaître Christ, sa personne, son caractère, sa volonté, et ainsi de suite. Et moi, je crois que nous avons besoin, non pas d'une nouvelle révélation de qui est Christ, comme Pierre l'a reçu quand Jésus lui a dit, dans Matthieu 16, verset 16-17, Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Que l'on ait 2 mois de conversion, ou 1 an, ou 10 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, je crois qu'on n'aura jamais fini de connaître le Christ. Et c'est pour ça qu'une de nos prières devrait être « Accorde-moi, Seigneur, une nouvelle révélation de ta personne. Aide-moi à découvrir plus sur toi. Donne-moi plus de toi. » Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a faim, c'est un petit peu dans cette option. Et j'aimerais ce matin donner un petit portrait du Christ qui m'a fait vraiment du bien ces derniers temps. D'abord te rappeler que le Christ qui t'a appelé à le suivre et qui t'invite à le suivre aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que tu as déjà réalisé cela? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une église qui t'a appelé à le suivre. C'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Fils de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer. C'est ce Fils-là, ce Fils de ce Dieu-là qui t'a appelé. C'est le Fils du Dieu juge, devant lequel un jour toutes les nations seront rassemblées et seront jugées. C'est ce Jésus-là qui t'a appelé. Et c'est Dieu lui-même. Le Fils du Dieu créateur, le Fils du Dieu juge, mais aussi Dieu lui-même. Puisque Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle est devenue chair. Donc souviens-toi que le Christ qui t'a appelé est le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as répondu à son appel ce matin, tu as reçu un appel divin. Un appel d'en haut. Pas un appel humain. Pas un appel terrestre. Tu as reçu un appel divin. Le Christ qui t'invite à le suivre, c'est aussi celui qui a été crucifié sur une croix pour toi. On l'a chanté et on a célébré la Sainte Cène. Il est celui qui, en mourant sur la croix, t'offre le pardon, la vie éternelle, mais aussi la puissance de changer. Et il y a quelque chose dans la croix qui m'a vraiment de nouveau surpris, qui m'a de nouveau vraiment encouragé. C'est le côté substitutif. Dans Luc, verset 23, chapitre 23, verset 33 à 39, on voit la foule, les soldats et l'un des crucifiés qui disent à Jésus la même chose. Sauve-toi toi-même, descends de la croix. Jésus n'est pas descendu, il est resté sur la croix. Parce que si Jésus était descendu, il n'y aurait personne d'entre nous ce matin ici. Dans Galates 3, verset 13, il est dit, « Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à cause de nos péchés. À notre place, il est en effet écrit, « Maudit est quiconque est pendu au gibet. » Donc la mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas simplement un geste d'amour. La mort de Jésus sur la croix, c'est une mort substitutive. C'est toi qui as péché et c'est lui qui a été puni. C'est ça la croix. Sur la croix, il n'a pas simplement pris nos péchés, il a été puni par Dieu. C'est ce que la Bible dit, l'expiation, la substitution. Quelqu'un a dit, Dieu le juge, qui un jour jugera le monde, est venu en Jésus-Christ pour subir le jugement que nous devions subir. C'est toi qui as péché, c'est lui qui est mort, en étant puni à sa place, à ta place. Donc souviens-toi que le Christ qui t'a appelé à le suivre, et qui t'invite à le suivre, et pas simplement le Fils de Dieu, mais il est aussi le crucifié. Ça veut dire que tu as reçu l'appel du Sauveur du monde en dehors duquel aucun homme ne peut être sauvé. C'est ce qui est écrit dans Acte 4. Dieu n'a donné aucun autre nom, à savoir le Christ, par lequel nous devions être sauvés. Et c'est ce Jésus-là qui t'a appelé à le suivre, et qui t'invite à le suivre aujourd'hui. Le Christ qui t'invite à le suivre, c'est aussi le ressuscité. Tu n'as plus à craindre la mort, puisqu'il en est revenu. Il est vivant aujourd'hui, et en plus, il intercède à la droite du Père pour nous. Donc si tu penses que personne ne prie pour toi, c'est faux. Il y a au moins quelqu'un qui prie pour toi. Le Christ, assis à la droite du Père. Donc souviens-toi que le Christ qui t'invite à le suivre, c'est le ressuscité. Ça veut dire que tu as reçu l'appel non pas d'un mort, mais d'un vivant. Et ça, c'est la grande différence avec les autres religions. Bouddha est mort, Mahomet est mort, Jésus est vivant. Oui, vous avez le droit de dire amen. Mais ce qui est encore formidable, hein, c'est que le Christ qui t'invite à le suivre, t'a un jour dans sa grâce, toi, choisi pour être son enfant pour l'éternité. Dans Galates 1, verset 15, il est dit, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Donc souviens-toi que le Christ qui t'invite à le suivre t'a choisi dans sa grâce pour partager sa vie ici-bas et dans l'éternité. Ça veut dire que tu as reçu un appel personnel. Un appel personnel. Pas un email groupé, un appel personnel. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et moi, je dis des fois, mais Seigneur, moi, j'ai encore des frères et sœurs qui sont toujours loin du Seigneur. J'ai des voisins qui sont loin du Seigneur. Je dis, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu m'as choisi? Et je suis vraiment émerveillé par la grâce de Dieu. Et puis, bien sûr, le Christ qui t'invite à le suivre est tout suffisant pour toute ta vie chrétienne. Dans Colossiens 1, verset 16, il est dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Et un peu plus loin, chapitre 2, versets 9 et 10. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Vous êtes pleinement comblés. Le philosophe Pascal, il a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Si tu as invité le Christ dans ta vie, ce vide est rempli. Il te reste simplement à découvrir tout ça. Dieu a rempli ce vide. Donc souviens-toi que le Christ qui t'a appelé à le suivre et qui t'invite à le suivre aujourd'hui, il est le Fils de Dieu, il est le crucifié, il est le ressuscité, il est celui qui t'a adressé un appel personnel, il est celui en qui tout est suffisant. C'est ce Dieu-là, c'est ce Jésus-là qui t'invite à le suivre. Est-ce que c'est ce Jésus-là que tu connais aujourd'hui? Est-ce que c'est ce Jésus-là que tu aimes aujourd'hui? Est-ce que c'est ce Jésus-là que tu suis aujourd'hui? Si la réponse est non à l'une de ces choses, c'est que peut-être il te manque cette intimité. C'est pour ça que le Christ qui nous invite à le suivre nous invite aussi à vivre en relation constante avec lui, puisque dans Marc 3, verset 13 à 14, quand Jésus choisit ses disciples, il est dit qu'il les choisit pour être avec lui, d'abord, avant de faire quelque chose pour lui. D'abord d'être avec lui. Il y a un homme qui s'appelle Ron Jensen qui a loué un camping-car et il a sillonné le pays avec sa femme tout en préparant sa thèse de doctorat. Il devait interroger 350 responsables chrétiens. À la fin de sa tournée, il a fait une remarque décourageante. « J'ai constaté beaucoup de zèle pour l'œuvre de Dieu, mais peu de passion pour Dieu lui-même. » J'ai constaté beaucoup de zèle pour l'œuvre de Dieu, mais peu de passion pour Dieu lui-même. Et nous, dans notre ministère, parmi ces femmes victimes de trafic, il y a eu un moment où j'ai réalisé qu'en fait, mon amour pour ces femmes, enfin, entre parenthèses, hein, était plus important que mon amour pour le Christ. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il est temps de renverser l'horloge et de remettre les choses à leur place. Jésus doit toujours occuper la première place. Pas nos activités, même pas les membres de notre famille. Lui doit avoir la première place parce qu'il en est digne. Le disciple de qui précède le disciple pourquoi? Sinon on tombe dans l'activisme. Et là, on a disciple pourquoi? Et je trouve que la confession de Westminster décrit en une phrase, vraiment, le but pour lequel nous sommes disciples. Le but ultime de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa joie en lui. Glorifier Dieu et trouver sa joie en lui. Une des choses que j'ai saisies lors de ma conversion, en mai 1975, donc ça fait 40 ans, j'avais 20 ans à cette époque, donc vous savez quel âge j'ai. À cette époque, je faisais mon service militaire. Et j'ai découvert, en fait, à travers une conversation avec un homme qui s'appelait Lucien, ça se passait aux Antilles, en Martinique, j'ai découvert que Jésus était le chemin pour me réconcilier avec Dieu le Père. Lors d'une conversation avec ce frère, il y a un verset qui m'a vraiment parlé. Dans Romains 3, 23, il est dit « Tous les hommes ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Et quand il a dit ça, j'ai dit, mais la présence de Dieu, moi, je la connais pas. Je sais pas ce que c'est. Et pourtant, j'étais passé par le CV catholique, hein. Baptême, communion, confirmation. Mais je connaissais pas le Christ. Je connaissais pas Dieu. Je consultais pas sa parole. Je priais pas. Je vivais pas la vie qu'il me demande de vivre. Et pourtant, je me considérais comme, selon les statistiques, chrétien. En fait, je l'étais pas. Et je me souviens, à la lecture de ce verset, avoir posé la question à ce frère, mais comment retrouver la présence de Dieu dont je suis privé, justement? Et là, il m'a cité Jean 14, 5 et 6. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et ce soir-là, d'une manière toute simple, j'ai ouvert mon cœur, j'ai accepté Jésus comme le chemin pour me réconcilier avec le Père. J'ai compris ce soir-là que ce Jésus qui avait été crucifié sur une croix il y a 2000 ans l'avait été aussi pour moi, pas simplement pour ma grand-mère ou mon voisin. Je sais que ce soir-là, je suis devenu enfant de Dieu. J'étais plus la même personne. Que Dieu était venu habiter en moi par son esprit. Que désormais, la vie éternelle était une destinée certaine. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, c'est vraiment important de le faire. On ne naît pas chrétien, on le devient. Hein, ça, c'est la grande différence. Même si tu es né dans une famille chrétienne, ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Il arrivera un moment où tu devras faire un choix et reconnaître que ce Jésus, il est aussi mort pour toi, personnellement. Une chose pourtant que je n'avais pas saisie, compris à ce moment-là, c'est que Jésus n'était pas seulement le chemin pour me réconcilier avec le Père, mais c'est qu'il allait être le chemin pour toute ma vie, à tout moment, pour toute circonstance. Ça, c'est la différence entre chrétien religieux, un chrétien de nom, hein, ce qu'on appelle un chrétien de nom, et un disciple. Un disciple, c'est justement quelqu'un qui suit son maître pas à pas en vue de lui ressembler. Accepter Christ comme le chemin pour me réconcilier avec le Père pour ensuite mener ma propre vie ne fait pas de moi un disciple. Ça fait de moi un chrétien de nom. Jésus est le chemin pour toute ma vie. Et bien sûr, ça implique un changement de vie, un véritable tsunami, je dirais. Et il y a plusieurs manières de suivre Jésus. Et j'en décrirai une ou deux. Lors de l'arrestation du Christ dans le jardin de Golgotha, il est dit ceci, en Luc 22, verset 54, « Alors ils se saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. » Cette petite phrase, ça m'a vraiment interpellé. Pierre suivait à distance. Et malheureusement, c'est d'actualité aujourd'hui dans beaucoup d'églises. On suit, mais à distance. Sans vraiment s'engager. Pleinement sur le chemin. Mais il y a possibilité de changer. Puisque quelques instants, quelques moments plus tard, on voit ce même apôtre qui suivait Jésus à distance se lever courageusement pour annoncer la bonne nouvelle à toute une foule. Donc peut-être cette année, je ne sais pas si tu as fait pas des promesses, mais vous savez, on fait toujours au début d'année, on aimerait changer des choses. Peut-être une des promesses, ou peut-être des vœux que tu peux faire, Seigneur, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai l'impression de te suivre plutôt à distance. Je te connais pas vraiment. Et j'ai vraiment envie de me rapprocher de toi. Je rencontre aussi, de plus en plus, des frères et sœurs qui sont sur le chemin, mais tellement fatigués et tellement découragés qu'ils marchent constamment la tête en bas. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est pas à cause d'éléments extérieurs, mais c'est à cause de problèmes internes dans les églises. Et j'aimerais que tu reçoives cette parole que l'on trouve dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Et moi, j'ai dû apprendre aussi à dire à Dieu, « Seigneur, conduis-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, et délivre-moi des œuvres mortes. Enlève ce qui n'est pas nécessaire. » Et c'est intéressant, quand on dit à Seigneur, enlève ce qui n'est pas nécessaire, que tout d'un coup le Seigneur enlève des choses. Il s'occupe de notre agenda. Et il nous pousse à faire seulement ce qu'il nous demande de faire. Mais pour moi, l'exemple des premiers disciples reste un modèle. Parce que dans Luc 4, verset 19, il est dit, Jésus leur dit, suivez-moi. C'était Pierre et André. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Aussitôt. Ils n'ont pas discuté. Puis c'est au tour de Jacques et Jean. Il les appela et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Un peu plus tard dans le même évangile, Jésus dira ceci, Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc le chemin que Dieu nous invite à prendre n'est pas un chemin facile. Il n'est pas un chemin facile parce qu'il est parlé d'une croix à porter. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de chrétiens qui souffrent dans le monde, qui sont persécutés pour leur foi, dont certains meurent, le chemin n'est pas facile. Et il sera de moins en moins facile pour nous. Même en Europe. Et on voit bien des signes aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on soit prêt, qu'on soit attaché au Seigneur. Suivre le Christ, c'est avoir cette prière en tête et surtout dans le cœur. Seigneur, toi qui as donné ta vie pour moi, aide-moi, montre-moi comment je peux participer à l'avancement de ton royaume sur terre comme au ciel. Ça, c'est disciple pourquoi? Disciple pourquoi? Contribuer à avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut mettre nos pas dans les pas du Seigneur. Là, on est même un peu trop loin. On devrait être plus près. En un mot, le Seigneur est en train de nous dire à chacun ce matin, ne fais pas n'importe quoi de ta vie. Suis mes instructions. Je suis le chemin, aujourd'hui pour toi. Suis mes pas. Mets tes pas dans les miens. Et peut-être que le chemin que Dieu va vous demander de prendre ne sera pas le même que le chemin que Dieu va demander de prendre à un autre, dans la même église. Dieu a des chemins différents pour chacun. Suis mes pas sur le chemin de ton enfance. Suis mes pas sur le chemin de l'adolescence. Suis mes pas sur le chemin de tes études. Est-ce que tu consultes Dieu si tu fais des études? Et tu dis, Seigneur, j'aimerais vraiment que mes études contribuent à l'avancement de ton royaume. Suis mes pas sur le chemin de ton métier. Suis mes pas sur le chemin du mariage. Suis mes pas sur le chemin de l'éducation des enfants. Suis mes pas sur le chemin du ministère ou de ton service dans l'église. Suis mes pas sur le chemin du témoignage auprès des perdus. Suis mes pas sur le chemin de la vieillesse. Et peut-être un jour, suis mes pas sur le chemin de la persécution pour certains d'entre nous. On pourrait dire que le Seigneur est vraiment exigeant de nous demander un tel prix à payer, mais pas quand on considère celui qui nous appelle à le suivre. Quand on considère qui il est, ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, on se dit oui, ça vaut vraiment la peine de le suivre. Ça vaut vraiment la peine de le suivre. Personne d'autre ne peut exiger autant que lui, à cause de qui il est et à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et comme vous le savez, il y a à peu près 6 ans maintenant, le Seigneur, il nous a appelés dans un ministère assez particulier. Encore une fois. Attends, d'accord. Et je vais demander à ma femme de venir. Alors, concernant le trafic humain n'est pas nouveau, parce que ça existait déjà au temps de Moïse. Dans Deutéronome 24, verset 7, il est dit, « Si l'on découvre qu'un Israélite a enlevé l'un de ses compatriotes israélites et l'a réduit en esclavage ou l'a vendu, cet homme sera puni de mort. Ainsi, vous ferez disparaître de vous la souillure qu'entraîne le mal. » Ça existait aussi au temps de l'apôtre Paul, ce qu'on appelle le trafic humain. Ainsi, non, la loi n'est pas faite pour le bien, mais pour les marchands d'esclaves. Les marchands d'esclaves. Et le trafic humain sera aussi une cause du jugement de Dieu à la fin des temps sur la grande Babylone, parce que dans Apocalypse 18, verset 13, les marchands de la terre pleurent sur Babylone, car il n'y a plus personne pour acheter les corps et les âmes d'hommes. Et bien sûr, beaucoup de trafic, de ce qu'on appelle le trafic humain, concerne ce qu'on appelle l'exploitation sexuelle. C'est-à-dire ces femmes qui se prostituent et qui viennent de réseaux, qui sont envoyées ici en Europe par des réseaux. Et donc la Bible fait la différence entre la prostitution subie et la prostitution choisie. Et là aujourd'hui, on parle plutôt de la prostitution subie. Alors, juste quand même quelques statistiques. Certains experts dans le domaine de la recherche sur le trafic humain estiment qu'il y a 21 à 28 millions d'esclaves qui sont victimes de trafic humain dans le monde. Ça concerne la mendicité, c'est-à-dire des personnes qu'on amène devant des magasins, même ici en France, et qui font la manche. En fait, l'argent qu'elles récoltent n'est pas pour elles. Parce que vous remarquerez que souvent elles sont amenées sur les lieux de mendicité par des hommes ou d'autres avec des belles voitures. Ça concerne aussi le travail forcé, ça concerne le don d'organes, ou je dirais plutôt le prélèvement d'organes, hein, et puis beaucoup, beaucoup l'exploitation sexuelle. Et parmi ces 27 millions de personnes victimes de trafic, plusieurs millions sont des enfants. Chaque année, 1 500 000 personnes, femmes et enfants, sont recrutées dans le monde par des trafiquants. Et 80% le sont à des fins d'exploitation sexuelle. Et vous voyez le chiffre d'affaires. 3 milliards d'euros dans le monde. Et en France, c'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça se situe entre la drogue et les armes. Hein? Certains pensent que même aujourd'hui, le trafic humain rapporte plus d'argent que les armes et se situe en deuxième position. Mais vous savez, et là on voit que la provenance, en particulier par rapport à Nantes, tous les pays sont concernés par le trafic humain. Certains pays sont des pays de départ, d'autres des pays de transit et d'autres des pays de destination, parfois les trois à la fois. Rien qu'à Nantes, dans les 6 années qui ont passé, j'ai personnellement rencontré avec mes collègues qui sortent la nuit 500 femmes différentes dans les rues de Nantes qui se prostituent. 2 Françaises seulement. Toutes les autres venaient d'autres pays. En Paris, en particulier l'Afrique anglophone et l'Europe de l'Est. Et 90% de ces femmes sont victimes de réseaux. Donc le visage de la prostitution a changé aujourd'hui. Et comme on le dit, les statistiques n'ont pas de larmes. Et donc, ma femme va décrire un petit peu la situation des femmes qui viennent ici en France.
Voilà, donc les filles qui ont été amenées ici, sur les rues de Nantes, dans les rues de Nantes, c'est des femmes qui ont au départ été trompées. Parce que, bien sûr, elles rêvent d'une vie meilleure, parce que dans leur pays, il y a moins de revenus, moins de possibilités de survivre, de trouver un travail et de nourrir sa famille. Donc, ces femmes ont surtout la motivation de trouver une vie meilleure. Et donc, elles ont été trompées parce qu'on leur promet un travail, de faire des études et, oui, trouver cette vie meilleure. Et donc, elles sont déplacées. Vous avez vu les provenances tout à l'heure, soit par avion, soit par bateau. Ou vous voyez maintenant beaucoup à la télé, on parle de tout ça, donc on voit bien en direct comment ça se passe. Et donc, les personnes qui ont été amenées aussi, c'est souvent par des personnes de là où ils habitaient. Ça peut être une voisine, ça peut être une tante, une amie, de la famille, quelqu'un qui propose. Voilà. Je connais quelqu'un qui peut t'aider à aller en Europe. Donc, c'est souvent par des personnes, qui, a priori, c'est pas un gros trafiquant, là, avec des lunettes noires qui vient te dire qu'il vient en Europe. Non, c'est des personnes dans l'entourage qui vient proposer cette possibilité. Et c'est souvent la fille aînée aussi. Même s'il y a des frères plus âgés, c'est la fille aînée à qui on demande cette responsabilité de partir pour pouvoir nourrir la famille. Donc elles sont déplacées et ça implique des faux papiers. Et malheureusement, souvent les autorités peuvent être complices. On les paye et voilà, c'est bon. Donc une fois ici en Europe, en France, elles se retrouvent piégées. Parce que tout de suite, en arrivant sur la terre, en France, on prend le passeport. C'est la première chose. Et après, on lui dit que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travail, il faut que tu aides à payer. Et puis, on explique que malheureusement, il faut que tu fasses ça. On amène sur le trottoir un lieu dans la ville, et voilà. C'est ça que tu dois faire. Donc, elles ont été piégées. Et ça dépend de quelle provenance. Pour les filles d'Afrique, il y a des menaces plus d'une manière spirituelle, manipulation par la responsabilité.
C'est les filles.
Oui, bien sûr. Bon, elles ont été menacées de différentes manières. Les pays d'Afrique, il y a donc il y a des menaces physiques plus des pays de l'Est, avec des gros bras qui peuvent être sur place ici dans les régiments et qui menacent directement avec des violences physiques. Ou sur la famille aussi, parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants au pays. Mais pour les pays d'Afrique, c'est plus une menace spirituelle et manipulation par menacer la famille là-bas aussi. Et donc, on revient justement à ce qu'il est dit, à ce qu'il est manipulé, à ce qu'il est la pression. Elles se sentent piégées parce que, avant de venir, elles ont dû passer par une cérémonie vaudou. Donc, c'est la peur liée au vaudou, donc une peur spirituelle. Et là, cette semaine, on a été en contact avec une fille et qu'on a aidé à s'échapper. Et elle disait d'abord qu'elle n'était pas passée par une cérémonie. Mais c'est bizarre, c'est sûr. Et après, on a découvert qu'en fait, elle avait fait deux tentatives pour venir en Europe, en France. La première fois, c'était une madame qui voulait la faire venir en Belgique. Ça n'a pas marché. Elle a été refoulée. Donc là, elle avait fait la cérémonie vaudou. Mais pas la deuxième fois, quand enfin elle a réussi à venir en France. Donc, il y avait bien eu cette cérémonie vaudou avec un sorcier qui prélève des cheveux, des poils, des ongles, des choses qui reflètent sa vie intime et aussi ce qui est moins destructible du corps. Et ça symbolise la durée de la promesse qu'elle a faite. Donc c'est une promesse de rembourser une dette. Donc cette dette, elle se situe entre 40 000 et 80 000 euros. Et déjà, c'est une somme complètement fictive. Parce que les frais pour la faire venir, les faux papiers, le trajet, etc., ça peut être peut-être 2000 euros. Mais après, c'est la madame qui veut donc se construire une belle maison ou payer les études de ses enfants à elle. Donc, cette dette, déjà, elle n'a pas compris que c'est en euros. Mais elle pense que c'est en monnaie locale. Donc, ça représente quelques centaines d'euros. Et là, c'est 40 à 80 000 euros. Donc, c'est un poids énorme. Et donc, la peur spirituelle, c'est quelque chose de vraiment réel. Et la police française le reconnaît aussi, elle connaît très bien le poids que ça a sur elle. Donc, nous voyons concrètement dans notre travail qu'il faut vraiment souligner la victoire de Jésus sur toutes les dominations, tous les esprits, tous les pouvoirs. Et c'est très important. Et puis aussi, il y a les menaces sur la famille, ça on voit aussi de près. Si tu rembourses pas, si tu payes pas la madame, si tu dénonces à la police, on va trouver ta famille et on va brûler la maison ou le tuer. C'est des menaces vraiment de violence. Et dans la cérémonie vaudou, il y a aussi les malédictions prononcées que tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de succès dans ta vie, tu deviendras folle, etc. Toutes sortes de menaces comme ça, qui pèsent réellement. Et parfois, il y a des enfants aussi, que bon, on sait que tu as un fils, une fille, etc. Et malheureusement, une vie comme ça, vous imaginez bien que quelqu'un qui n'a pas du tout prévu de faire un travail comme ça se trouve sur les trottoirs dans un pays qu'elle ne connaît pas, une langue qu'elle ne connaît pas, sans personne en qui elle peut avoir confiance, ceci se retrouve traumatisée. Et c'est un choc, elle se sent seule. On demande qu'est-ce que tu fais la journée, est-ce que tu vois des amis, j'ai pas d'amis. C'est pratiquement toujours la réponse, j'ai pas d'amis. Elles connaissent les autres filles dans la rue, mais elles n'ont pas d'amis, elles peuvent faire confiance à personne. Et aussi, médicalement parlant, pour supporter une vie pareille, pour subir ce qu'elles subissent, elles pratiquent aussi la dissociation, c'est-à-dire qu'elles sont comme deux personnes. La journée, quand elle va à bouffer, acheter, à manger, et la nuit, quand elle voit les clients, c'est deux personnes. Elle coupe pour supporter. Donc c'est comme si c'était deux personnes. Ça s'appelle la dissociation. Voilà.
Ça se passe ici, à Nantes, hein? Donc, face au réseau de notre ennemi, Satan, Dieu a aussi son réseau. Hein? Et donc, l'église qu'il bâtit. Et aujourd'hui, ce qui est formidable à Nantes, c'est que 12 églises de différentes dénominations, protestantes évangéliques, collaborent justement avec nous pour accompagner ces femmes victimes de trafic sur le chemin de la liberté en Christ et pour construire aussi des ponts avec elles pour atteindre cette liberté. Parce que nous croyons qu'il est possible de transformer des vies et des communautés par le message de l'Évangile et par des actes justement cohérents avec ce message. Parce que le message de l'Évangile, c'est une des réponses au trafic humain. Parce que le Christ, par sa résurrection, et on l'a vu dans la vie de plusieurs de ces femmes, apporte le pardon dont elles ont besoin, une espérance, mais aussi surtout la puissance nécessaire pour changer de vie. Et bien sûr, il y a aussi des actes cohérents avec ce message. Et c'est pour ça qu'on fait des visites régulières la nuit, on les aide au niveau administratif, en particulier au niveau des papiers, de la régularisation de leurs papiers, lorsqu'elles veulent, décident de quitter la prostitution. On est en contact avec d'autres partenaires comme le Mouvement du Nil, les assistantes sociales, la CIMAD et ainsi de suite. Soutien financier parfois pour certaines qui sont sorties de la rue en attendant qu'elles reçoivent quelque chose du gouvernement. Et grâce à ce réseau, on a pu aider et aidons plusieurs de ces femmes à être justement les femmes que Dieu veut qu'elles soient. On me demande souvent combien de femmes vous avez aidées. Moi je dis souvent une à la fois parce que ça prend énormément de temps. Mais on peut dire quand même que durant ces 6 années passées, on a pu aider une trente à quarante femmes qui ne sont plus dans la rue. Pas nous directement, mais en relation avec d'autres. Et maintenant, bien sûr, nous voulons aussi que ces femmes ne sortent pas simplement dans la rue, mais qu'elles soient aussi attachées au Seigneur. Elles se reconstruisent. Et donc, on a la joie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va accueillir une jeune femme qui s'appelle Lorraine, qui va aider ces femmes de manière personnelle au niveau du suivi, quoi, personnel, en lisant la Bible avec elles et ainsi, en les intégrant aussi dans des églises partenaires et ainsi de suite. Alors, ce qui est formidable aujourd'hui, et je terminerai par ça, c'est que Dieu a un cœur beaucoup plus grand que le nôtre, puisque aujourd'hui, Dieu a suscité des ouvriers dans d'autres villes, comme Paris, Lyon, Montpellier, Marseille, Orléans, Grenoble, Mulhouse et Strasbourg. Et il y a une semaine, j'ai été contacté par quelqu'un à Bordeaux. Et donc, entre le 15 et 20 février, on va les visiter parce que des chrétiens sur place veulent commencer un travail parmi ces filles. Et puis Toulouse, oui. Voilà. Amen.